large, c'est-à-dire autant vivant qu'en chemin vers quelque chose.
Alors j'ai une phrase de Sénèque là qui vous pouvez peut-être commenter. Le mal qui nous travaille n'est pas dans les lieux où nous sommes, il est en nous. Nous sommes sans force pour supporter quoi que ce soit, incapables de souffrir la douleur, impuissants à jouir du plaisir, impatients de tout. C'est une partie de ce paradoxe aussi.
Oui, ce qui est relativement important effectivement dans le roman, c'est le sens du paradoxe. Ce qui fait que dans la vie, je me sens à la fois vivant et pas en vie. Bon. Donc j'ai l'impression finalement que pour toucher les choses essentielles de l'existence, il faut que je dépasse la pensée logique. Il faut que je joue du paradoxe jusqu'à me vautrer dans un paradoxe a priori incohérent pour faire naître du sens. Et pour faire naître du sens en passant parfois par l'indécence, effectivement, puisqu'il y a toute une traversée des grands problèmes fondamentaux de l'existence.
Alors, il y a un côté un peu... je dirais qu'il y a un rapport à son corps aussi, où on s'inflige une douleur, une souffrance. J'ai relevé une phrase, Dieu sait qu'il faut être masochiste et sadique pour vouloir vivre. Alors ça, c'est une phrase qui m'a frappé. Je dirais que le paradoxe, vous le vivez comment à ce niveau-là? Vous êtes plus masochiste ou sadique?
Ni l'un ni l'autre. Bon, cette phrase, elle a aussi pour but de faire réagir.
On dirait du surant.
Ah oui, ouais, il y a un petit sens de la formule à l'assurant.
Aphoristiquement, je voulais dire. Hein,
complètement. Ce qui me semble important dans cette phrase, c'est finalement de tracer une opposition, une rupture entre notre exigence de sens et la condition humaine qu'on n'a pas choisie. Et il y a finalement un rapport sadomasochiste entre l'être humain et sa propre condition, finalement.
Peut-être une forme de schizophrénie aussi. Une personnalité un peu double, finalement.
Oui, quand pas seulement une personnalité double, finalement, si on dit avec les penseurs du XXe siècle, jouer est un autre ou jouer plusieurs autres, on s'habite même pas, on n'habite rien. C'est pour ça que le personnage du roman a perdu son âme et la retrouve sans la reconnaître, finalement. On est dans quelque chose d'assez allégorique. Et moi, à certains égards, on peut très bien considérer que l'être humain a perdu son âme parce qu'il ne se sent pas vivant. Et puis, il a aussi perdu quelque chose de vivant. Après, on y reviendra, sans doute après Auschwitz, après ce constat que la raison ne produit pas la vie. Pire, elle produit l'antithèse de la vie, la mort, la barbarie. Et donc, dans ces conditions, il faut réinterroger le rapport à l'écriture et il faut réinterroger le rapport au sens. Et c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais le rapport au sens me paraît passer de temps à autre par l'indécence, par quelque chose qui fait éclater les idées convenues.
Voilà. C'est une phrase qu'on a déjà citée dans cette émission. C'est une phrase de Serge Gainsbourg qui dit qu'il considère la provocation comme une dynamique. On n'est pas très loin de ce que vous affirmez finalement. C'est que c'est quelque chose qui remue le lecteur. Le spectateur ne peut pas rester passif devant ce que vous appelez l'indécence. Il y a un peu de ça.
Complètement. Il y a dans la provocation un renversement d'une inertie, finalement. Quelque chose qui retrouve la vie, mais qui la retrouve à l'envers, puisqu'il faut finalement passer par une révolte, passer parfois par le rapport à la haine, pour produire quelque chose qui nous permet d'être vivant, d'être créateur.
Alors, on a évoqué très brièvement la religion. Il y a quelques références bibliques par rapport au héros. Il a 33 ans. Oui. Il y a une phrase que j'ai relevée, « Mon existence de crucifié ».
Oui. Bon.
Ce que vous appelez l'ange barbelé, qui est un peu le moteur du récit, on va avoir l'occasion de traiter le thème, c'est le symbole aussi de la Shoah, c'est ce que vous dites dans la préface. Et cet ange barbelé, sans trop dévoiler, va se matérialiser en quelque sorte en une femme de confession musulmane. Donc là, je vois que c'est une trinité de religions, finalement. Et il y a tout un mélange qui va aboutir à un bref apaisement du personnage. Bref, on va pas dire pourquoi. Mais la réconciliation à l'existence passe par un mélange de religions aussi. J'aimerais que vous parliez un petit peu de ça.
Bah, c'est vrai que ce qui caractérise le roman, au premier abord, c'est la coexistence des contraires. Le personnage se dit athée, en même temps il découvre l'existence de l'âme, il refuse l'existence de Dieu, en même temps il en parle tout le temps, il y a une affirmation d'athéisme résolue et en même temps un mysticisme qui est omniprésent, et donc c'est vraiment dans cette coexistence des contraires, dans la volonté de ne pas avoir de jugement définitif, que se place l'homme moderne finalement. Et donc par là même le personnage du roman. La dimension religieuse, c'est finalement partir de l'idée que la véritable spiritualité est susceptible de passer par les religions, mais sans s'y réduire. Mmh.
Donc après la Shoah, il est plus possible de faire de la poésie, mais il est possible de faire de la philosophie. C'est un bon terreau. Parce que, est-ce que vous êtes parti de là ou de...
Je vais employer une formule assez subversive. J'aurais presque tendance à penser naïvement qu'après la Shoah, tous les croyants sont des révisionnistes.
Mmh. C'est dur.
Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui blesse de toute façon d'emblée le rapport à la confiance en Dieu, on va dire. Hein, primitivement, l'existence de Dieu, croire en Dieu, c'était pas savoir si Dieu existait ou Dieu n'existe pas, c'était savoir si on avait confiance en lui ou pas. Forcé de constater qu'il y avait un lien direct entre le fait d'avoir confiance à la raison et le fait d'avoir
confiance
en Dieu.
Le lien qui s'était tissé avec la religion entre Dieu et l'homme, en fait, bon, c'était.
C'est compliqué. La Shoah remet en question ce livre.
Oui, c'est ça, voilà.
Les trois alliances du livre, finalement, des grands monothéistes, sont finalement presque d'emblée, par le fait, discréditées. En tout cas, elles ont à repenser, à supposer que ce soit possible de rapport au Dieu.
Mais dans le roman, vous écrivez à un moment que des êtres absolument dégueulasses ont pu créer des œuvres absolument magnifiques. Ouais. C'est quelque chose qui revient dans des œuvres de Claude Lelouch, par exemple, où par exemple des soldats allemands de la Gestapo vont interpréter Rachmaninov parfaitement au piano. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi. Donc à ce niveau-là aussi, il y a une interrogation à ce niveau-là aussi sur l'humanité, bien, mal.
Complètement. Et on reste aussi dans une coexistence des contraires qu'on n'arrive pas à penser, mais qu'on questionne, qu'on essaye d'épuiser. Hein, d'où finalement une volonté d'expérimenter aussi le langage dans cet ouvrage-là. Il y a une volonté d'appréhender le style d'une manière un petit peu syncopée et saccadée, et une volonté d'expérimenter aussi le rapport à l'identité. Le personnage ne sait pas qui il est, il ne se trouve pas, une fois qu'il s'est trouvé, il ne se reconnaît pas. Dans la mesure où il trouve son âme et que celle-ci devient une femme, il ne se reconnaît pas dans cette femme. Donc il y a fondamentalement ici un questionnement, une quête, mais qui n'aboutit pas. Ça serait presque de l'ordre de la mauvaise foi que de faire quelque chose de figé et une réponse définitive. What to do? And in my head I make a picture.
And I miss your ginger hair. And trust the water. And I think of all the things what you do, and in my head I make a picture.
Voilà, c'était les Zootons, groupe de Liverpool
sur Radio Campus. Sur le 101.3, tout à fait.
101.3 FM. Donc enivrez-vous, donc, toujours avec Didier Durmark, pour son roman qui est paru aux éditions Tot. Je profite pour faire un peu de propagande, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire. C'est aux éditions Tot, ou Tot, je ne sais pas trop comment faut dire. Et donc c'est Tot. Un roman qui est sorti... Pardon ?
Oui, oui, Tot, voilà. Très bien.
Et c'est sorti cette semaine, hein, c'est ça ?
Oui.
Et c'est sur toute la région, je sais pas,
Oui, sur toute la région. Alors parfois, il y a des petits décalages de dates au niveau des réseaux de distribution. Donc,
ça peut se trouver sur Rouen.
Fnac Armitière, peut-être la semaine prochaine, mais il sera disponible cette semaine à l'Insoumise, par exemple, je crois. Bon, sinon, il est commandable partout, bien sûr.
D'accord. Vous allez faire des festivals, peut-être faire une petite tournée, je sais pas
Oui, il y a quelques dates de prévues. Il y a des dates définitives et des dates provisoires. Dans le provisoire, il y a le Festival du Livre Libertaire de Paris, 15 et 16 juin. J'ai une signature également le 3 juin à Louviers.
C'est la mode de faire des lectures en ce moment. Est-ce que vous pourriez en faire quelques-unes ?
Alors, pour l'instant, c'est pas prévu. Nous, ce qu'on avait essayé de mettre en place, c'était d'adapter une pièce de théâtre, en fait, autour de la question du néant, avec un comédien qui s'appelle Éric Sourd. Et on avait proposé cette pièce à des professeurs lovériens. Et il y avait toute une traversée de la question du néant, depuis Dostoïevski, en passant par Sartre, Camus. Et on utilisait le personnage de Moins que rien, finalement, comme l'incarnation psychologique des problématiques qui étaient élaborées, édifiées d'un point de vue littéraire et philosophique. Et on a fait cette prestation théâtrale qui durait une heure, et globalement, les élèves étaient assez contents, et puis étonnés par le côté... la façon d'appréhender directement les problèmes. Alors que bon, c'est vrai que le problème du suicide en tant que sujet tabou, on a l'impression que
vous estimez que c'est encore tabou aujourd'hui?
Complètement. C'est tabou parce que d'emblée, quand on parle de suicide, on est dans une perception morale des choses, et force est de constater que les discours moraux n'ont jamais été efficaces face au suicide, parce qu'ils partent pas du problème, ils n'interrogent pas finalement le problème. Ils considèrent que le problème est résolu à l'avance. Ils font comme s'il y avait de la vie dans la vie. Et c'est le côté burlesque de mon personnage qui d'emblée interroge le suicide.
C'est extrêmement social aussi, hein. C'est une société dans laquelle on n'a pas le droit d'être malheureux aussi, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça.
Oui, mais en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est dans une société où on peut aussi avoir le culte du malheur. Des fois, on se dit quand on est malheureux, c'est plus essentiel que quand on est heureux.
On a compris quelque chose aussi, c'est sûr.
On peut se dire. Donc il y a cette ambivalence-là. Après, c'est clair que la dévalorisation du malaise... Hein, comme quelque chose qui produit rien.
Il y a forcément aussi le côté lâche du geste qu'on interprète comme de la lâcheté souvent pour ceux qui restent, et qui est bien plus profond que ça. Hein,
La question du suicide, encore une fois, ça reste au départ une question. Donc ça part de l'existence. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Est-ce qu'il faut se suicider? On n'est pas dans est-ce qu'il faut passer à l'acte? Comment? On n'est pas encore dans une pratique. Pragmatique du suicide. On est dans une interrogation du sens de l'existence. Et c'est vrai que certains philosophes ont pu défendre l'idée que quand on se suicidait, on affirmait finalement la vie. On n'avait pas renoncé à quelque chose. C'est quelque chose qui peut tout à fait se défendre. Mais ce qui fait problème dans le suicide, c'est qu'on part pas du, effectivement, comme tu le disais, de la rupture entre la conscience de la vie et ce qu'est la vie.
Mais si je peux me permettre, c'est aussi un autre paradoxe, puisque c'est un vide qu'on ressent dans sa vie, Et c'est finalement c'est le passage vers un autre vide, le vide de l'ignorance, de l'au-delà finalement. Donc c'est parce qu'on ne peut pas savoir.
Bah là on va rentrer effectivement dans une psychologie du suicidé. Je ne sais pas si je suis compétent en la matière. Il y a des suicides qui finalement n'en sont pas les suicides amoureux, même si effectivement il y a passage à l'acte. Il y a au moins dans l'histoire de la littérature l'idée d'une mais vie mort, après la vie.
Mort à Venise finalement, c'est un peu ça.
Presque une dénégation du suicide. Les suicides où il y a rien finalement dans l'histoire de la littérature, ça commence au 19e avec Werther par exemple.
Il y a toute la tradition, il y a Chateaubriand.
Les sous et rien en fait, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Pardon. Où il n'y a rien, où il n'y a aucune...
Où on se suicide avec une conscience du néant.
D'accord.
On se dit, après, il n'y a rien.
D'accord.
Voilà. Donc là, on est déjà dans une interrogation qui est beaucoup plus fondamentale. Parce que si on se suicide, en partant du principe qu'il y a quelque chose après, on n'est plus dans la même problématique, finalement. Effectivement, comme tu disais, ça s'apparente peut-être à de la fuite. Et d'emblée, on condamne l'existence. D'emblée, on dit que l'existence, de toute façon, est une qualité inférieure, que ça vaut pas la peine d'être vécu parce qu'il y a une autre vie après la vie. Bon, cette vie morte n'a pas suffi. Donc on va passer à une autre vie et on choisit finalement presque une autre vie.
Et puis après, dans ce sens-là,
le suicide n'est pas une négation de la vie.
Il y a le problème de la croyance aussi, hein, parce que là, c'est encore autre chose. Évidemment, c'est carrément le péché, un des péchés les plus importants. Mais ouais. Oui, le suicide par rapport au néant.
Mais ce que met en exergue le roman, c'est que la meilleure façon de sortir de la problématique du suicide, c'est de l'interroger. Voire, paradoxe, de le tourner finalement en dérision. Et le pari du personnage, qui semble un petit peu osé, c'est lui décide de ne pas vivre, mais en vivant. Voilà, parce qu'il considère que finalement on se suicide par amour de soi, et dans ces conditions-là, on se ment à soi-même. Et dans ce renoncement, qui est presque biblique finalement, c'est très étonnant, qui est très proche de « il faut mourir à soi-même ».
Il y a un peu de culpabilité aussi qui est en filigrane, je trouve, dans ce roman. Peut-être inassumée, peut-être inconsciente, mais...
Oui, une culpabilité d'exister seulement à ce point-là, à ce degré-là.
J'ai été obligé donc de partir en aphorisme, on pourrait en dire 10 000, mais je sais que j'avais lu une citation de Sénèque qui disait ça, qui disait les gens ne meurent pas, ils se tuent eux-mêmes. Et finalement c'est ça, c'est on porte le poids d'accepter finalement, et est-ce qu'on l'accepte finalement en vivant, de mourir, se dire bon j'ai encore le temps, etc.
Complètement. Il y a, de toute façon, on est avec le site, on est dans le paradoxe, on est dans la figure même du paradoxe. Tu citais Sioran tout à l'heure, hein, écrit « ne se suicident que les optimistes », chose tout à fait étonnante. Il ajoute « les optimistes qui ne peuvent plus l'être, les autres n'ayant aucune raison de vivre, pourquoi en aurait-il de mourir ?»
C'est la force de celui qui n'en a pas, comme disait Maupassant. Il y a aussi de ça.
C'est difficile d'avoir des jugements définitifs sur le suicide, effectivement. Dans la littérature, on peut avoir des suicides qui sont révoltés, peut-être éventuellement révoltants, mais si on veut véritablement penser le suicide, il faut penser son rapport à la vie et considérer qu'après le suicide, il n'y a rien. Le suicide se conçoit comme une négation.
L'histoire a donné des exemples. Quand il y a eu les chars qui ont envahi les pays de l'Est, c'était au siècle dernier maintenant, il faut le dire, il y a eu des étudiants qui sont immolés. C'était une forme de suicide, de révolte. Et finalement, les kamikazes, c'était un suicide de révolte en quelque sorte.
Mais là, on n'est pas complètement dans la négation. C'est Camus qui déploie bien ça dans L'homme révolté. On est dans l'affirmation de valeurs qu'on considère supérieures à la vie.
Et cette citation d'Ibsen aussi, « Chercher le bonheur dans cette vie, c'est là le véritable esprit de rébellion ». Donc là, on n'est plus dans le suicide, mais chercher le bonheur dans cette vie, finalement. C'est ça qui donne un nouveau projet d'existence, finalement. Mais pour revenir au roman, j'aimerais qu'on détaille un peu l'ange barbelé. Que vous expliquiez un peu ça, parce que on reste très général là, mais il faut parler un petit peu du roman quand même. Vous avez dit les grandes lignes, mais cet ange barbelé, comment est-ce qu'il arrive? Comment est-ce que la rencontre se fait? Est-ce que vous pouvez détailler un peu?
Alors, cet ange barbelé qui est finalement l'âme du personnage, il arrive dans le lit du personnage. Et d'emblée, finalement, il symbolise non seulement le lien entre le personnage et lui-même, mais finalement le rapport d'emblée entre ce que nous sommes spirituellement et ce qui s'est passé finalement dans l'expérience de la Shoah. Pourquoi ce lien? En règle générale, un être humain qui cherche à s'accomplir, il essaye déjà, on va dire, pour reprendre une formule de Montaigne, de penser sa vie pour vivre sa pensée. Donc il fait confiance à la pensée. Et il y a dans la Shoah, finalement, l'idée d'une défaite de la pensée, ou en tout cas d'une pensée qui, encore une fois, ne produit pas la vie. Donc là, on retrouve cette coexistence des contraires.
Vous faites la référence à Finkielkraut dans La défaite de la pensée ?
Pas explicitement dans le roman, mais c'est quelque chose effectivement qu'on peut retrouver chez lui. L'ange barbelé, c'est cette idée finalement que moi je ne sais pas pourquoi, j'ai pas vécu la Shoah, mais je me sens coupable. Comme si j'avais une responsabilité, alors que d'un point de vue philosophique, la responsabilité n'a de sens qu'envers mes propres actions. Et en même temps, j'ai l'impression d'être relié à ça, de le porter, de l'assumer. Comme s'il fallait nécessairement partir de là aujourd'hui pour retrouver le rapport à l'écriture, le rapport à la vie et par là même le rapport au sens. Et c'était donc pour partir de ça, il faut presque finalement partir du non-sens. Hein. J'enlève le presque.
Et vous citez Primo Levi à quelques reprises dans le livre.
Oui.
C'est un auteur qui vous a beaucoup marqué peut-être.
Oui.
Georges Simprun peut-être aussi avec
l'écriture
de la vie.
On retrouve chez
les témoignages de
chez
la Shoah,
ces deux auteurs. Mais pas seulement, on trouve une idée vraiment géniale. Qui rejoint l'idée de l'ange barbelé, c'est pour penser l'existence, il faut partir de la Shoah. Il y a dans l'expérience des camps de concentration quelque chose qui nous permet de penser la vie et qu'on ne peut pas penser sans l'expérience des camps.
Vous en parlez presque comme une révolution métaphysique. Là. C'est presque l'inconscient de Freud et puis la théorie de l'héliocentrisme, finalement.
C'est une révolution à certains égards, mais c'est pas nouveau. Primo Levi l'a dit, Simprun l'a dit. Voilà, on est de mauvaise foi si on part pas de là, ou alors on philosophe ou on écrit comme si c'était rien passé. Donc c'est pas évident. Moi c'est vrai que les deux questions qui m'ont hanté lorsque j'ai composé ce livre, c'est comment réveiller un mort. Donc le rapport à la mort, le rapport au passé, à l'histoire, comment réveiller les morts que nous sommes parfois, au sens où on est très souvent en dehors de la vie, et comment écrire après Auschwitz, comment retrouver la vie dans les mots.
Oui, la question c'est, est-ce que l'écriture peut être la même que celle qui était avant? C'est pas possible.
J'espère que ce n'est pas possible, sinon...
C'est impossible d'avoir une écriture qui soit la même que...
Et pourtant, on fait comme si. Hein, il y a un proverbe... Ouais.
Problème, c'est qu'on se rend compte qu'on fait comme si.
Oui. Un proverbe hindou qui dit « ce qu'on ignore, on se condamne à le répéter ». Et c'est ça qui est finalement... On n'est pas dans des prises de parti seulement littéraires, là. Tu parlais de prises de position métaphysique. On parle beaucoup de la Shoah. Certains disent, oui, pourquoi on parle tout le temps de la Shoah et pas d'autres souffrances, comme si les souffrances étaient concurrentielles. On parle de la Shoah parce que c'est un symbole. Voilà. Et pas parce qu'on est juif, hein, parce que c'est le symbole, finalement, de la chute de la raison et presque d'une civilisation. J'irai pas jusqu'à dire de l'Occident, mais presque, il y a la chute d'une façon de se rapporter à la pensée. Et donc c'est vrai que, comme tu dis, écrire autrement, ça passe par une réflexion sur le style, une réflexion sur la littérature, sur la lecture. Et Simprun et Primo Levi, c'est vrai que ce sont deux personnes qui considèrent qu'il faut partir de l'expérience des camps, non pas par devoir de mémoire, non pas par masochisme, non pas pour se flageller, pour se faire du mal, mais pour penser la vie.
Bien sûr, mais j'ai une question peut-être un peu naïve, mais par exemple, par rapport à la guerre d'Algérie, on a stigmatisé la torture... Et on a dit, la torture c'est horrible, il faut arrêter. Bon, on n'a pas stigmatisé la guerre. Les camps de concentration, on stigmatise les camps de concentration, on ne stigmatise pas la guerre. Et la guerre est à... La guerre aussi, pourquoi ne pas stigmatiser la guerre? Parce que la guerre c'est aussi vieux que l'humanité finalement. Et c'est la cause de... C'est ça qui a abouti sur la Shoah, qui a abouti sur la torture. Donc pourquoi ne pas stigmatiser la guerre? Et pourquoi dire que la Shoah a révolutionné ça, alors que c'est la guerre qui finalement est cause de tous ces maux?
Si tu veux stigmatiser la guerre, tu remets en cause finalement la crédibilité de l'être humain. Tu parlais d'inconscient tout à l'heure. Freud disait, fondamentalement, l'être humain a tendance à pas maîtriser ses pulsions mortes, et on a presque l'impression que les civilisations sont des périodes d'accalmie, et... En dehors de ces périodes d'alchimie, la pulsion finalement prend le pouvoir et se réalise dans la violence. Donc pourquoi pas la guerre? Parce qu'il y a quelque chose d'éminemment pulsionnel et qui est plus fort que l'identité humaine pour l'instant. Et pourquoi les camps de concentration? Parce que là, il y a quelque chose qui est rationnel,
qui est raisonné,
qui est poussé à l'extrême, qui est optimisé complètement, qui est raisonné et pas raisonnable.
Il y a même une science finalement, une science de mort.
Complètement.
Et donc dans la guerre,
la mort est théorisée, quoi.
Ouais.
Pourtant, on trouve toujours un prétexte à la guerre. On essaie de la rationaliser aussi par ça, soit pour la religion.
Oui, mais comme tu dis, c'est un prétexte, quoi. Ça arrive après. C'est secondaire. Hein. On faisait la guerre parce qu'on s'ennuyait. On est presque dans...
Mais les croisades avaient un motif
oui,
quand même. Oui. Il y avait quand même derrière, il y avait des motifs.
S-I-N-T, hein.
Oui, bien sûr.
Moi, je voulais juste savoir, en fait, peut-être que la Shoah pourrait être considérée comme une autre blessure de l'humanité, au même titre que l'héliocentrisme, que Darwin. Voilà.
Oui, ça serait.
Parce que finalement, c'est qu'une défaite de la pensée, c'est ça. Hein,
ça serait la quatrième castration de l'être humain.
Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Ce que titraient les journaux américains après Hiroshima, Nagasaki, What have we done? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Comment c'est possible que ça soit un.
Qu'on arrive et moins que rien, ça serait un peu. Voilà.
Pareil.
Comment essayer de traverser cette castration? C'est pas simple de traverser une castration.
Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Est-ce que le roman a trouvé une réponse?
Encore une fois, ce qui me semble important dans le roman, c'est de ne pas avoir de jugement définitif. Mmh. Dès l'instant où on s'enferme dans un jugement définitif, finalement, on se ment à soi-même parce qu'on retrouve la pensée rationnelle, on retrouve la pensée logique. Dostoïevski résumait ça d'une manière qui peut sembler un peu confuse, mais qui est très claire dans Les Démons, quand il parlait d'un personnage qui s'appelait Stavrogin, qui disait « Stavrogin ne croit pas qu'il croit, et il ne croit pas qu'il ne croit pas ». Il peut pas être dans l'affirmation, mais il peut pas non plus être dans la négation. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se représenter, à se présenter le monde. Et c'est cette impossibilité-là, finalement, qui fait la défaite de la pensée.
D'accord. Alors, par rapport au savoir, dans le roman, il y a une ligne, une phrase, « Ce n'est pas le savoir qui me réveille de ma vie morte. » Vous parlez des morts vivants qui sont un peu englués dans leur routine. Mais pourtant, vous, ce qui est un peu le moteur de votre écriture, finalement, c'est que tout au long du récit, les références pleuvent. Et ça aide le héros à appréhender le réel. J'ai pas dit à le comprendre, mais au moins à l'appréhender. Donc, on en parlait tout à l'heure, Cioran, Lautréamont, Rimbaud, Beckett, ça afflue. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire par rapport à votre cheminement personnel?
Les références pleuvent, mais en même temps, on aurait tendance à dire... que les références pleurent aussi. Il y a un deuil. Il y a un deuil. Les références abondent, mais elles sont tournées en dérision. C'est que ça. Hein.
Mais ça l'aide quand même.
Je sais pas si c'est fondamentalement une aide. En tout cas, il faut passer, entre guillemets, par ce dégoût. Donc pour passer par le dégoût, il faut passer par l'expérience. À non pas douter, il y a une préparation. Mais ça n'est qu'un instrument, finalement.
D'accord. Mais est-ce que finalement on est un peu dans la cédille, dans la bile noire qui assiège les hommes de culture comme,
C'est quoi la cédille, Emmanuel?
La cédille, c'est une forme de la mélancolie. Une forme de la mélancolie qui serait censée toucher surtout, je schématise, les hommes de culture. Et vous êtes un homme de culture, hein, je ne l'ai pas encore dit, vous êtes professeur de philosophie dans un lycée de Louviers. Peut-être qu'un de vos élèves écoute.
Et, plusieurs, s'ils ne sont pas au lit.
Oui.
N'oubliez pas qu'il y a la dissertation pour la semaine prochaine à faire quand même terminer.
Et le commentaire composé aussi.
Oui.
Alors, est-ce que c'est finalement ce savoir, bon, alors peut-être qu'il l'aide pas, mais comment ça s'est passé le savoir? Comment est-ce que vous l'avez engrangé? Qu'est-ce que vous avez des révélations devant des auteurs particulièrement?
On connaît tous la formule, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et c'est vrai qu'on a l'impression que la culture, c'est ce qui colle à la peau, c'est le corps. Parce que c'est quelque chose qui touche, c'est quelque chose qui habille. Mais en même temps, ça, c'est uniquement un vêtement. On a à s'habiter, si je puis dire. Et la culture n'apprend pas complètement... à s'habiter, elle nous donne des modèles, elle nous donne des moyens, on s'habille avec la culture, mais on s'habite pas.
Est-ce que les modèles, est-ce que vos modèles seraient, si je vous dis Céline, Bukowski, Schopenhauer, est-ce qu'il y a une résonance
Complètement dans la manière d'appréhender le style. D'ailleurs, c'est très gênant parce que Céline était quand même raciste, hein, fiefé, salaud, antisémite, et pourtant il a touché du doigt.
Mais ton style et motif.
C'est, ouais, c'est, oui. C'est cette idée qu'on avait perdu la vie. Voilà. Que la littérature s'apparente à ce qu'il appelle un gros mot, hein, une certaine forme d'image épinale figée, et qu'elle est plus crédible parce que maintenant il y a le cinéma. C'est très intéressant cette pensée, et qu'il faut retrouver la vie. Et c'est vrai que l'idée du rendu émotif, ce style syncopé, très musical, est quand même. Pour un écrivain très intéressant, hein, un modèle. Et là, effectivement, on a quelque chose qui, à la fois, habille et habite, en l'occurrence, si je garde la référence célinienne.
Et ça vous a... je sais, c'est toujours difficile de dire ça, mais est-ce que c'est une de vos références majeures?
Oui.
Oui, oui. Oui. Parce qu'il y a une façon de triturer le langage aussi, dans votre roman.
Oui, c'est une révélation, finalement. Ce qui est difficile quand on lit Céline, et quand on lit Céline à la suite, c'est que, c'est quelqu'un de très prétentieux, hein, il nous dit souvent, bon, après moi, vous pourrez plus lire.
Oui, il était très content de dire, dans 100 ans, les petits Chinois, ils passeront leur bachot sur moi.
Ouais, ouais.
Ça, c'est une phrase qu'il a dit un jour.
Complètement. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est vrai, c'est très difficile de lâcher Céline une fois qu'on l'a lu. Parce qu'on a l'impression d'être vraiment en relation avec ce qui est vivant, quand bien même ce vivant est scandaleux et noir, si je fais référence au voyage, est pitoyable et détestable.
La trilogie allemande aussi.
Ouais, complètement, cette trilogie, elle est sublime. Ce qui compte, c'est démarrer de la vie. Et le problème, dans une certaine pensée, c'est qu'on oublie la vie. On pense comme si on était immortel. Donc on est presque obligé de partir de l'expérience de la mort, de la pensée du suicide, pour être honnête.
Et Voyage au bout de la nuit, aussi un questionnement sur le néant, néant de Bardamu, qui finalement n'arrête pas de voyager, parce qu'il essaie de trouver un sens à chaque fois.
Mais en même temps, bon, Voyage au bout de la nuit, c'est, on va dire, le roman un peu philosophique, où il y a quand même beaucoup d'idées, et petit à petit, Céline délaisse les idées, il le dit, pour transformer le style en une musique, hein, donc pour retrouver la vie pure. Ce que met en exergue le roman, moins que rien, c'est pas uniquement une musicalité. On a une volonté quand même de se rapporter au fond, mais un fond qui est tragique et qui doit finalement passer dans le rapport à soi et dans un rapport, comme vous soulignez, torturé. Le rapport au corps torturé, le rapport à l'âme comme quelque chose qui est perdu, qui va pas de soi, et le rapport à l'amour comme quelque chose qui doit être nécessairement interrogé.
Voilà, c'était Nude sur Radio Campus 101.3 FM. C'était Radiohead live au Danemark, Emmanuel.
Tout à fait, à Copenhague. Et c'est très très frais.
Copenhague.
Comme la poissonnerie, ça vient du... C'est début mai, c'est le 1er mai qu'ils ont fait ce concert.
Ah bah voilà.
Voilà. Et Tom York qui va sortir un album solo le 11 juillet.
C'est pas vrai ça.
Tout à fait, ça s'appellera The Eraser.
Il sort un album solo.
Comme le film avec Schwarzenegger. Tout à fait. Et c'est produit par Nigel Godrich.
Ah oui, bien sûr.
Qui a produit le dernier, par McCartney.
Et puis, combien d'albums de Radiohead album,
bien sûr.
Très bien.
Alors, Didier Durmark. Travailler, c'est manquer de respect à soi-même. C'est une formule, c'est une saillie verbale qui m'a un petit peu transpercé le cœur quand j'ai lu le roman.
Mince.
Travailler, c'est manquer de respect à soi-même, et j'ai trouvé ça bien, c'est une sorte d'éloge de la paresse. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette phrase?
Ouais, ça fait du bien d'entendre ça. Déjà, ça soulage. C'est presque un antidépresseur littéraire.
Référence au tripalium.
C'est quoi le tripalium, Nicolas? Il faut expliquer.
C'est l'origine du mot travail, c'est un instrument de torture, en fait, à la base. Étymologiquement, ce travail vient de tripalium. Alors, le tripalium, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble. Une sorte de joue, je pense.
Ouais, c'est un instrument qui servait à ferrer les chevaux. Je ne sais pas non plus
quoi qu'il en soit, c'est quelque chose. C'était des étreintes, voilà, quelque chose qui condamnait au statisme,
douloureux,
qui condamnait au statisme.
Oui, c'est ça.
On va dire.
Voilà.
Non, mais ce qui est intéressant dans cette phrase et qui va totalement à l'encontre de ce qu'on vit dans le quotidien, c'est cette idée que l'être profond d'un homme, ça serait pas son être social. Ce qui finalement, pour la psychanalyse, par exemple, est d'une banalité totale. Alors que nous, on part du présupposé contraire.
Oui, mais moi, j'ai eu les confessions au programme au lycée, et je dis Jean-Jacques Rousseau serait pas content, là. Parce que lui, il préférait que les hommes... Enfin, il serait content, justement. Non, je dis des bêtises. Justement, Voltaire serait pas content. C'est ce que je voulais dire.
Par le travail, ici, on entend vraiment quand même l'idée d'une absence d'autonomie.
Oui, c'est ça.
Une absence de choix.
Hein. La contrainte.
L'idée qu'il faut finalement donner du travail pour occuper l'homme. Donc, en ce sens, il y a presque une utilisation finalement, donc un manque de respect, oui, et un manque de respect envers soi. Au-delà de la formule, c'est cette idée que il faut finalement se mettre en garde devant l'idée qui considérait comme évident que ben voilà, ce que je suis, c'est avant tout mon être social, c'est-à-dire mon rapport à la société.
Donc le travail serait essentiellement aliénant.
Non. Parce qu'il n'est pas systématiquement le fruit d'une décision subie, imposée, d'un système. Mais on a dans la continuité du travail, dans la répétition des tâches, finalement, quelque chose qui, comme le dit Balzac, amène à étouffer la pensée.
Mais c'est
donc
un peu...
à étouffer finalement le rapport à l'humain, même si ce rapport devient problématique.
Ça fait penser à Michel Houellebecq un petit peu, toutes ces assertions.
Oui.
Est-ce que Michel Houellebecq aussi, ça résonne?
Moyennement.
Moyennement.
Ça résonne moyennement.
Peut-être un peu moins au niveau du style.
Oui.
Qui est très... Il y a beaucoup de sécheresse chez
Houellebecq. Déjà, oui.
Mais il stigmatise aussi le...
Il y a plus de pluie chez moi, oui.
Oui, peut-être un peu, oui. Effectivement, on peut dire ça. Alors justement, vous allez nous lire un extrait. C'est un extrait que j'ai choisi. Et c'est une sorte d'éloge charnel de WW. On va tout vous expliquer après. Et donc Didier Durmark, Radio Campus Rouen 101.3 FM, va nous lire ça right now.
Moi, je ne croyais rien. J'aimais pour la première fois. Elle vint avec son cul de raison pour exalter ma prière. Elle ne le laissait pas au vestiaire, au parking, au service des plus cache-cul pour gonzesses qui s'assument pas. Elle vint tout entière pour m'enivrer. Pour la soirée, son cul avait épousaillé un pantalon vert en flanelle, le type plante verte prête à se faire entretenir avec de l'engrais des mains au jardinier. Parlons-en, mes mains toutes tremblotantes, telle une écolière de cours moyen qui aurait oublié sa poésie parce qu'elle a la culotte toute rougie par sa première menstruation. Heureusement que Fatima ne vit point le rite de mes mains mendiantes implorant un demain commun, éberluée par cet éternel féminin. Elle était fascinée par ma bosse artistique de cyclope. Autour de ses fesses se tenait une fille berlingote aux longs cheveux noirs, souriante, pareille à une clairière de forêt vierge, ce qui devait être prémonitoire, et ouverte à l'instar d'une porte mal isolée, amoureuse des courants d'air. Elle salua chacun avec une grâce naturelle et un peu insultante pour le commun. Son absence de condescendance lui permit, semble-t-il, d'approcher les gens comme on approche les animaux domestiques, en les caressant du regard, en miaulant les phrases qui vous réconcilient avec vous-même. Rétrospectivement, je me dis que si nous ne vîmes ce jour-là aucun flagorneur de sa chair, ce n'était pas seulement parce que nous étions chez Jeanne et Amadeus, mais surtout parce que Fatima vous mettait en contact avec vous, avant de vous mettre en contact, en rapport, pardon, avec elle. Je peux toucher votre bosse, il paraît que ça porte bonheur, sont les premiers mots qu'elle versa, après avoir tergiversé pour combler ma soif. De quelle bosse parlez-vous, mademoiselle ? Ma question la fit rougir tel un coquelicot.
Voilà, donc c'est Fatima, donc c'est la femme de confession musulmane dont on parlait au début, qui est en fait modelée à partir de l'âme de l'ange barbelé. Voilà. Et c'est un travail effectué par Amadeus Maldoror.
Voilà, et le personnage ne le sait pas. Donc encore cette idée classique qu'on serait avant tout amoureux de soi, qu'on tomberait par définition amoureux de soi, et cette idée qu'on n'arrive pas finalement dans le rapport à soi et dans le rapport à l'autre à pénétrer l'essentiel, hein, autant d'un point de vue finalement métaphorique que aussi d'un point de vue physiologique, d'un point de vue sexuel, on pourrait dire.
On recherche peut-être toujours soi-même dans l'autre finalement, dans l'aimer.
C'est le piège.
C'est le piège.
C'est le vrai piège.
Est-ce que ça vous est arrivé?
Oui.
Ah, c'est un peu personnel. Je suis un petit peu mordisson. Ouais.
Peut-être qu'on peut chercher aussi celui qu'on voudrait être, ou tout simplement la complémentarité aussi. Hein.
Oui, mais c'est le sentiment de complétude qui reste un piège, parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir combler un manque qui est le propre de la condition humaine, qui est toujours là, et quand on n'arrive pas à le combler, on est déçu, on le reproche à l'autre, alors que finalement, c'est à partir de ce manque que la relation commence.
Est-ce que l'amour est un exercice à trous ?
Oui.
C'est une phrase du roman où il y a une petite théorie.
Une théorie qui ne se prend pas au sérieux, précisément, assez
non,
burlesque.
Non, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu burlesque, il y a beaucoup de recul par rapport à ça, recul humoristique. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler cette théorie ?
Dans l'ouvrage, il y a une satire constante de l'apport psychanalytique, que je trouve très conséquent, mais... c'est aussi intéressant de le tourner en dérision. Freud disait que la construction d'un homme, la construction de l'identité, se faisait à travers le corps et plus fondamentalement à travers les trous, hein, à travers la bouche, à travers l'analité et le stade génital ou phallique. Et ce que déploie mon personnage, finalement, c'est cette idée que on pourrait, au premier abord, comprendre un homme à partir de ce qu'il fait avec ses zones érogènes, avec ses trous, et donc d'élaborer une clinique du trou. Et concevoir que l'amour est un exercice à trous, c'est pas seulement finalement subversif ou un peu obscène, c'est concevoir que on pense l'amour comme quelque chose qui doit combler. Donc, bien
oui.
Quelque chose
l'amour
qui
maternel, est un trou. Voilà, l'amour voilà. Maternel, vous dites, le psychanalyste le dit en tout cas au héros, c'est que la première déjection du nouveau-né, finalement, c'est un acte d'amour, quelque
oui,
sorte, à sa mère.
Oui, oui.
Et il y a des propos aussi rabelaisiens tout au long du livre. Et le corps rejoint l'esprit par rapport à ça, en tout cas dans son importance métaphysique, peut-être.
Complètement, bien sûr.
Alors,
il faut retrouver l'esprit, et la seule manière de retrouver l'esprit, finalement, c'est de passer par le corps. Et c'est la raison pour laquelle on a peut-être aussi perdu l'esprit. C'est qu'on passe, on passe pas fondamentalement par le corps. On parle d'amour, certes, c'est plus un sujet tabou, mais on est plus dans l'ordre d'une consommation sexuelle, dans quelque chose d'utile. On parle pas fondamentalement de l'essentiel, du sens. Et donc, dans cette perspective-là, je pense que effectivement, on ne trouve pas le corps. On ne trouve pas le corps.
Et justement, on parle souvent de l'âme et du corps. On a beaucoup glosé sur les séparations, mais finalement, dans ce roman, l'importance est égale à ce niveau-là. Alors, je vais vous demander de commenter aussi cette phrase. Ce qui est absolument dramatique dans la condition humaine, c'est que n'importe quoi vous donne envie de vivre. Alors, je relevais ça, je trouvais ça intéressant. Vous, Didier Durmar, qu'est-ce qui vous donne envie de vivre ? par rapport à ça.
Dramatique, c'est aussi ce qui invite à l'action. Hein. Ce qui doit finalement.
Dramatique au sens de théâtral.
Oui, aussi.
D'accord, oui.
Bien sûr.
Ce qui insuffle une force qui vous donne envie de vous lever chaque matin, finalement.
Ce qui doit donner envie de vivre, et c'est presque un travail, c'est la vie, finalement. Parce que si on pose une raison, une fois que cette raison
bien sûr, mais peut-être une passion, peut-être au niveau déraisonnable, finalement. Là, je vous demande vraiment une passion, finalement. Peut-être la culture, je sais pas, la bonne chair, je sais pas.
Le foie gras.
Ça, c'est ta passion, Nicolas.
C'est un peu réducteur. Les échecs, on va dire. Les échecs, ça me fait lever le matin.
Ouais. Ça va être un petit peu romantique si je dis l'amour. Mais voilà, l'amour comme quête, quoi. L'amour avec le sentiment de jamais être digne de ce nom.
Les auditeurs aiment bien entendre ça, hein, donc c'est très très bien,
ouais,
ça.
Ouais, on va dire l'amour.
Voilà, c'est super, ça. En plus, c'est la fête des mères dimanche prochain, c'est super.
Super.
Qu'est-ce que vous allez offrir à votre mère?
Je ne sais pas encore. De l'amour.
De l'inconvénient d'être né.
Voilà. On va s'écouter les Dirty Pretty Things.
Tout à fait, les petites choses sales.
Un groupe qu'on pourra voir à Évreux dans le rock dans tous ses états.
Ah, tout à fait.
Ce sera le samedi avec Franz Ferdinand, voilà. Et puis Dionysos.
Leader étant Karl Barat, ex-Libertines.
Voilà, ex-acolyte de Pete Doherty. On va écouter après pour un petit extrait lu par Didier Durmark.
Voilà. Bang Bang You're Dead, c'est le nom du morceau. Ah.
Bang, bang, you're dead. Put all of you
Dirty Pretty Things sur le 100.3 FM Radio Campus Rouen, c'est Enivrez-vous, et là c'est pour la dernière partie. Emmanuel.
Oui, effectivement, nous sommes sur la conclusion, on est sur le départ, avant sans pleurs et sans reproches. Alors on a délégué notre lecteur professionnel, Nicolas, pour ne pas le nommer, qui va donc nous restituer un passage de Moins que rien, le roman de Didier Durmark. Nicolas, c'est à toi.
J'entends ronronner. Je vous jure que j'entends ronronner. Que je suis pas fou. Pas possible, c'est un poisson chat. Avec toutes les volées que je lui ai mises, il s'est attaché. Pour être aussi sadomasochiste. Aucun doute que c'est Dieu. Créer l'homme pour se faire et le faire souffrir et... pour rien. Il est en train de tourner autour de mes yeux. Il est sur le qui-vive, le poltron. Il attend la prochaine tournée. Moi, je rends les armes, je vais mourir. De toute façon, je sens qu'il s'est attaché, il va pas se barrer sans raison. Il est là pour un bon moment et vous n'avez pas boudé votre plaisir. Faudrait pas qu'il continue à cavaler indéfiniment autour de mes yeux. Il me donne des étourdissements, on dirait un bourdon, une grosse mouche. Je lui colle une taloche, mais ma taloche colle sur son visage de glace à la vanille. J'ignore s'ils sont quelque chose, il s'arrête pas pour autant. Il faut que je le vire de là parce que j'ai bien besoin de dormir pour me remettre un peu de toute cette existence. J'essaie encore 2-3 tartes. Mes efforts n'ont pas l'air du tout de le concerner, on croirait un ectoplasme de fonctionnaire. Il faut être un vrai tacticien de genre pour le neutraliser, sûr que Napoléon aurait été dans une sacrée mouscaille. Les idées les plus lumineuses sont souvent les plus simples. Je tâtonne un peu pour voir si j'ai pied, je prends l'animal par les pompes funèbres et hop, je sors de là, qui rip de ma chambre, c'est en cœur du néant. J'en ai des brûlures d'estomac, enchaîné et déchaîné les conneries. Ça n'en finit pas d'en finir. Soubspéquier a éterni l'existence, c'est une salade niçoise qu'il faudrait se taper tous les jours. On peut pas la ranger dans un coin, dans les cabinets, je vous ai déjà raconté. La vie, c'est quotidien.
Voilà, donc là, c'est quand il rencontre l'ange barbelé.
Oui, c'est la rencontre.
Il essaye de s'en débarrasser, il sait pas ce que c'est.
Avec son âme, oui, et paradoxalement, la reconnaissance passe par la violence. Mm-hmm. C'est une thèse classique, mais pour le moins étonnante. En général, on a toujours la prétention de bien se connaître, on parle même de bien se reconnaître. Et là, il y a une différence d'identité entre lui et lui.
Bien, ce sera le mot de la fin. On va vous faire gagner quelques livres dans les jours à venir, donc de Moins que rien, le roman.
Ouais, les auditeurs peuvent toujours appeler au 02 32 76 92 05, 02 32 76 92 05 pour gagner un exemplaire du livre Moins que rien de Didier Durmark. Vous appelez quand vous voulez, il n'y a aucun problème, et puis nous, on fera suivre. Voilà.
Vous souhaite bonne continuation.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Bah, je vous en prie, les projets futurs en deux mots. Est-ce qu'il y a déjà un chantier?
Il y a déjà un chantier pour le second roman, mais on va déjà bien profiter du premier, profiter du partage, de l'échange, de la critique aussi. Et ensuite, on essayera de finaliser le second roman.
Vous reviendrez ici.
Merci beaucoup.
Nicolas, merci d'exister.
Emmanuel, merci à toi.
À très bientôt, lundi prochain.
On précise juste avant de finir que mercredi prochain... quand même, il y a une soirée Radio Campus organisée au Panorapide, donc juste à côté du panorama de Mont-Saint-Aignan, dès 21h, et bien vous pourrez voir un concert gratuit avec Tremor, Dame Fortune et Sortinance and Norton, donc concert rock, et voilà, donc n'hésitez pas à venir, c'est mercredi 24 mai, c'est mercredi prochain, à partir de 21h, il y aura des cadeaux à gagner en plus, et hot dog et bière,
et
hot d'or aussi, et voilà. Donc ça va être une soirée
mémorable
comme l'a été la précédente, qui l'était déjà.
Comme le sera la suivante,
à n'en pas douter.
En tout cas, le prochain numéro d'Enivrez-vous, on parlera de théâtre avec des pièces courtes, des acteurs viendront lire. Ce sera une émission débridée, comme d'habitude.
Très bien. Et bien, on se quitte avec un nouveau morceau des Dirty Pretty Things. Et puis on attend bien sûr sans pleurs et sans reproches. Pour une nouvelle émission d'Electro, d'idées de remarques. Encore une fois, merci d'être passé.
Merci beaucoup à vous.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir. Never saw before.
but it hurts less every day. The past lead me away, lead me away from those bloodthirsty bastards making plans for no one but ourselves. In this world of disaster, I just need someone for myself. All the sycophants and vampires, while I pack them off to hell. Oh, I've been up for days now, I hope no one can tell. I'll do my bit, oh yes, to cleanse my hands from lies. I'm feeding off the zombies, hatch from their own eyes. Oh, from his eyes.